texte du psaume extrait. Et puis avant de vous proposer, donc je lirai des extraits, puis je vous proposerai un regard qui naît de la juxtaposition de ces textes. Plutôt que commenter un texte particulier, un regard qui les prend ensemble. Et je vous invite presque à les, si vous voulez, c'est pas presque, à les écouter un peu comme si quelqu'un dans l'église priait comme ça. Prier ou s'exprimer comme s'exprime le psalmiste. Et puis qu'est-ce que ça vous fait ? Très communication non violente, tout ça. Qu'est-ce que ça fait quand j'entends ça ? Mais j'en parlerai tout à l'heure aussi. Donc. Heureux l'homme, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Et je laisse un moment de silence pour vous laisser entendre ce que ça fait. Psaume 3. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Verset 8. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 6. Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas. Et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Verset 9. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront, soudain, tout honteux. Psaume 12. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain. Verset 9. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Donc voici des psaumes, voici des petits bouts de vie, Voici des petits bouts de vie humaine. Voici des chants. Ici, lundi, sa joie. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Psaume 7, verset 18. Ou bien il dit sa joie et il peut appeler à la joie. Célébrer par des chants l'Éternel qui siège en Sion. 9, 12. Et là, lundi, sa détresse. Appelle, implore. Aie pitié de moi, car je suis sans force. Guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. 6, 3. Le voici dans l'expectative, le voici qui attend, et le voici qui chemine. L'Éternel entend mes pleurs. 6, 9. Là, c'est un cri d'admiration, c'est un cri de confiance, de reconnaissance. Là, c'est un appel au secours. L'indignation, la colère et la peur. Alors, la plupart sont attribués à David dans les intitulés. Les intitulés sont moins sûrs que le reste du texte. En l'occurrence, on n'est pas toujours sûr qu'il en est l'auteur. Et on pourrait donc, deux options, hein, voir plusieurs personnes derrière ces textes, plusieurs personnes que je vous invite à regarder côte à côte. Et même si David est le seul auteur, on voit bien que côte à côte se trouvent les paroles de David tel jour, et à côté, les paroles de David un autre jour, après ou avant. Et placés côte à côte, c'est comme s'il y avait là plusieurs états d'âme, plusieurs situations qui se trouvaient présentes les unes aux autres, en même temps. Donc voici quelques psaumes, se croisant les uns à côté des autres, contemporains, se côtoyant, une diversité d'expressions et d'états d'âme. Et mes frères, mes sœurs, nous voici. Nous côtoyons les uns à côté des autres ce matin. Et les psaumes croisent notre chemin. Et à ce carrefour entre les psaumes et nous, et chacun, voilà, le groupe que nous formons, je me dis que les psaumes, je prie qu'un des exemples, mais je pourrais élargir, nous ressemblent un peu. Ils sont les uns à côté des autres dans le livre. Ils forment un groupe, chacun avec leur tonalité, et nous sommes les uns à côté des autres ce matin, dans cette salle de culte. Nous formons un groupe, avec chacun aussi, notre tonalité, notre discours intérieur. Ils sont présents, ces psaumes, chacun ensemble, chacun composé de paroles en jeu, des paroles adressées aux hommes et adressées à Dieu en même temps. Chacun correspondait à une parole, une situation unique, à un parcours de vie particulier, à un moment de vie particulier. Et chacun de nous, ce matin, les entend, ou bien il les entend quand ils se livrent à leur prière, si c'était votre démarche, ou leur lecture dans la semaine. Et chacun de nous, nous les entendons et nous les croisons dans notre singularité. Chacun, ici, a un ici et un maintenant qui lui est propre, qui est unique. Les psaumes me font sentir ça. Et cette singularité de chacun, je la mesure encore une fois, dimanche passé. J'étais à un stage de communication non violente. Alors c'était de l'initiation, hein, c'était soft, si je peux employer ce langage. C'est toujours soft, a priori, la communication non violente, mais c'est très engageant, personnellement. Donc je veux dire que c'était l'initiation au sens où c'était un cadre moins impliquant, personnellement, a priori, que les stages ordinaires. C'était juste une initiation qui m'intéressait parce que c'était un cadre chrétien spécifique. Et donc c'était une initiation qui concernait une communauté franciscaine. Héritiers de François d'Assise. La formatrice propose des exercices où, ordinairement, dans un stage ordinaire, c'est soi-même. Hein, on propose des situations réelles. Et c'est des personnes qui sont là et qui vivent avec leur situation, qui sont en cause. Là, c'est une proposition de situation extérieure, externe. Ça ne veut pas dire que ça change énormément les choses. Et donc, on observe de l'extérieur ces réactions devant des situations extérieures. Et donc, elle raconte, là, en l'occurrence, dans ce contexte-là, elle raconte un épisode de la vie de François d'Assise. Et elle demande, un peu comme je vous ai proposé tout à l'heure, en disant, voilà, je lis le psaume, qu'est-ce que ça fait pour vous? Elle demande de s'imaginer dans la scène et de se voir réagir. Qu'est-ce que ça vous fait si vous êtes dans telle situation? Et la scène, c'est la suivante. C'est un jeune homme qui dit à François d'Assise qu'il veut lui emboîter le pas, il veut le suivre. Et François d'Assise lui répond, si je puis dire, à la manière du Christ, c'est-à-dire il va reprendre les paroles du Christ, il va reprendre l'appel qu'il a entendu lui et qu'il l'a bouleversé lui. Et ce sont les paroles que Jésus a adressées au jeune homme riche. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et le jeune homme répond positivement et il s'apprête à vendre son bœuf. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il y avait des bœufs. On est au Moyen-Âge, hein. On vit de la terre, ce sont des paysans, et les tracteurs n'existent pas, donc on ne vend pas ce tracteur, c'est le tracteur, c'est le bœuf. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, après tout. Mais un élément important de contexte, et qui fait la différence par rapport au texte biblique, de l'appel un peu analogue de Jésus, c'est que ce jeune homme, c'est celui qui fait vivre sa famille. C'est une famille pauvre, c'est pas le jeune homme riche. C'est le jeune homme pauvre, d'une famille pauvre. C'est lui l'aîné, c'est lui la force musculaire de la famille, parce que le père est mort. Il reste la mère qui est âgée, qui est fragile. Et il reste ses frères et sœurs qui sont plus petits et qui sont pas tout à fait faits encore pour les travaux des champs. Entendez comment peut résonner l'appel dans cette situation-là. Quitter la famille, c'est la mettre en péril. Comment est-ce qu'ils vont manger? Et en plus, non content de ça, non seulement il s'en va, mais en plus il est prêt à donner le bœuf qui permet de cultiver. Alors comment est-ce que nous réagissons? Comment est-ce que vous réagiriez? Deux réactions que j'observe, je m'attarderai surtout sur la seconde. L'un s'émerveille devant le choix du jeune. Là, c'est quelqu'un qui en veut. Pour le Seigneur. Alors évidemment, il suit François d'Assise, mais son intention, c'est de suivre le Christ. Hein, j'espère que vous n'êtes pas parasité par ça. Et donc, quelqu'un qui lit ce texte et qui dit, wow, est-ce que moi, je serais capable de faire ça? Ça m'interpelle, cette histoire. Et il pourra louer Dieu devant une telle consécration parce qu'il n'est pas forcément sûr lui-même d'être prêt à aller jusque-là. Et puis, la deuxième... réaction. Et puis on pourrait imaginer voilà, les réactions de chacun, hein, si on est partagé. Je suis sûr qu'on aurait un panel divers. L'autre dit son indignation. L'autre dit sa colère même. Et avec une intensité forte. Elle dit sa crainte, cette personne, qu'au nom de l'Évangile, on manipule. On mette les gens dans la misère, au nom de Jésus. Au nom de Dieu, donne tous tes biens pour le suivre. Donne. Le jeune homme riche a tout donné. Et toi? Donne tout à l'Église. Donne tout aux prêtres, aux pasteurs. Mon numéro de compte va s'afficher, vous pouvez le noter pour les virements. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui ou non? C'est radical l'appel de Jésus, on n'est pas là pour rigoler. Donc soit tu prends les choses au sérieux et tu le suis, soit tu n'es pas digne du Seigneur. Je peux pousser le bouchon comme ça. Non, c'est pas tout. Tu aimes le Seigneur, alors va, vends tout ce que tu as, et peu importe les conséquences, et Dieu prendra soin du reste. Es-tu prêt? Et elle entend ça et elle est en colère, cette personne. Deux réactions, on pourrait même imaginer que ces deux personnes se répondent l'une à l'autre. La première pourrait dire, mais oh toi, hey, tu me dis que t'es spirituel? T'es dans une communauté franciscaine, là? T'es spirituel, là? Jugement? Mais si, enfin, mais si. Désolé, t'es pas prévu. Si la deuxième personne est juste écoutée, si elle est juste accueillie, peut-être qu'elle finira par dire que si elle réagit avec cette intensité, c'est parce que ça, c'est aussi, au moins aussi, parce que ça ravive en elle. Elle est renvoyée à son histoire, à son passé. Elle est renvoyée à une période où il n'y avait pas les moyens médicaux contemporains, non pas qu'ils soient forcément idéaux, mais bon, c'était moins simple. Et elle se revoit au chevet de sa mère qui est malade. Sa mère qui est engagée dans la foi, qui donne. C'est sa vie, donner c'est sa vie. Comme ça qu'elle a compris l'évangile et elle donne. Sa mère qui est malade dans une famille en situation de précarité où il y a plusieurs enfants, mais les fins de mois ou les débuts de mois sont difficiles. Tout donner, se dit-elle. C'est ce que faisait maman. Même au cœur de la maladie. Continuer à se priver pour donner à l'église, au pasteur, pour donner pour les besoins des autres, donner aux autres jusqu'à refuser, choisir de ne pas s'acheter de médicaments, jusqu'à cracher du sang, jusqu'aux portes de la mort. Il fallait donner aux autres. Et le cri de cette personne prend un tout autre relief. Le cri de cette deuxième personne, le psaume de cette deuxième personne, c'était « Est-ce que c'est ça l'évangile ? Seigneur, que fais-tu ? Seigneur, où es-tu ? Au secours ! J'ai tellement peur. Je suis tellement choqué quand j'entends de telles paroles qui invitent à tout donner. Je vois tellement ce que ça peut faire. Et nous, ce matin, notre psaume, c'est quoi ? Nous sommes les uns les autres, chacun côte à côte, dans notre diversité, avec chacun les discours intérieurs que nous tenons à Dieu, dans notre intimité, dans au-delà de ce qui est visible, derrière nos visages. Ça peut être une intériorité où nous sommes très très détendus, très 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 heureux, très très joyeux. Ça peut être une intériorité où nous sommes en souci. Ça peut être une intériorité aussi où nous sommes en regard les uns sur les autres. On peut se regarder les uns les autres. Et puis on peut être sur l'impression que l'un ou l'autre nous donne. Ah ben lui là, il a l'air heureux là. Ah lui il a l'air malheureux là. Contre ou elle a l'air malheureuse. Et peut-être, si on est dans cette posture, aussi on peut admirer l'un ou l'autre. On peut mépriser aussi l'un ou l'autre. On peut prononcer un verdict, une appréciation. Et peut-être d'autres sont juste là, sans se poser aucune question. Ils sont juste à l'écoute, ou ils essaient de l'être, ou de lutter contre le sommeil, je ne sais pas. Hein. Donc nous sommes là avec nos psaumes. Personnel. Nous sommes là chacun avec, pour chacun, les structures qui peuvent lui donner de la confiance, de l'assise, de l'élan, de la joie. Et nos psaumes peuvent être des psaumes de joie qui font écho à tout ce qui, cette semaine, a pu être vivifiant, a pu être réjouissant, dynamisant. On a envie peut-être de chanter, de louer le, on a envie de reprendre très longtemps. Et nous aurions peut-être envie que tout le monde aussi veuille ou puisse chanter de la même façon que nous. Envie de dire, le Seigneur est là, le Seigneur nous a délivrés, nous. Alléluia. Et pour d'autres, notre psaume peut être composé de cris, qui disent nos fractures, le vécu douloureux peut-être de la semaine même, les mauvaises nouvelles et tout ça encore retentit en nous maintenant. Et peut-être, alors j'imagine aussi, d'accord, il nous tarde peut-être que le culte se termine, et peut-être même qu'en même temps on a envie que le culte se termine et on aurait envie que ça dure un petit peu, parce qu'au moins on n'est pas tout seul, ça peut être ça. Donc nous sommes les uns à côté des autres, avec nos psaumes intérieurs, un peu comme ces psaumes bibliques sont les uns d'un côté des autres. Alors il pourrait être tentant, de valoriser les uns, telle ou telle posture, de faire la leçon aux autres, de dire à l'un ou à l'autre qu'il a raison, qu'il a tort. Le geste ne visait personne en particulier. Qu'il devrait ou qu'il ne devrait pas. Qu'il faudrait. Il faut quand même pas trop être exubérant quand même. Que non, il faut pas être trop déprimé quand même. Un chrétien triste, c'est un triste chrétien, par exemple. Je me dis que mettant ces psaumes côte à côte, Dieu fait avec ces psaumes bibliques un espace, une place. Et une place à chacun de ces cris. Le cri de celui qui a pour volonté peut-être d'instruire et qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Heureux l'homme, la femme, heureux. » Et il met à côté le cri de joie de celui qui a traversé la difficulté et qui en a été délivré. Merci Seigneur pour la délivrance cette semaine. Merci de m'avoir protégé sur le chemin là. Il s'est passé un truc à deux doigts. Merci Seigneur. Et peut-être aussi, le cri d'incertitude de celui qui est au cœur là de la difficulté, de l'hésitation, de l'épreuve. Tout autour de moi, des méchants rôdent. J'ai mal. Là, je ne vois pas d'issue là. Je ne sais même pas s'il y en aurait. Je suis touché de voir que Dieu laisse ses cris s'exprimer. Que Dieu offre à ses paroles un espace pour se dire. Et alors je me dis que quand nous serions tentés, peut-être nous, au moment où une parole joyeuse est prononcée, de dire « Eh oh, moi je vais mal, hein, donc tout le monde devrait être malheureux. » Ça peut être une posture. Ou bien d'éduquer, une parole joyeuse est dite, oui, on peut être joyeux, mais bon, un minimum de dignité, quand même. Zut ! Au moment où nous serions tentés de dire ça, Dieu, je vois que Dieu laisse la place à l'expression de la joie. Et quand nous serions tentés, nous, peut-être, à l'inverse, au moment où une parole de souffrance est prononcée, si tant est qu'il y ait de la place pour le faire, eh bien, de chercher tout de suite à consoler. Oh, je te prends dans mes bras, mon frère, ma sœur. Je te donne un verset de promesse. Au moment où nous serions tentés, peut-être, d'éduquer l'autre. Ah, mon frère, ma sœur, le Seigneur est grand. Il est capable de prendre soin de toi. Allez ! De le remettre sur les rails. De l'édifier. Et nous pouvons même le faire... dans la prière, je suis un peu caustique. Enfin, pour moi, quand je l'entends dans la prière, quand ça me concerne, je le vis mal. Donc, voilà. Donc, dans la prière, nous disons, Seigneur, montre au frère ou à la sœur qui va pas bien que tu es là. Ou bien, rappelle à notre frère que... Je parle d'un cadre public collectif. Bien, au moment où nous serions tentés de faire ça, je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, je vois que Dieu laisse la place à l'expression de la peine. Dieu laisse parler donc la joie, la peine et puis d'autres couleurs de la gamme. Et si nous n'osons pas les dire ou les avouer, d'ailleurs on n'en a pas vraiment la place dans le culte, hein, c'est un cadre limité, grosso modo j'en sais rien, ça dure 1h30, hein, bon si on est 60 personnes, ben, ça fait environ 1 minute 30 d'expression par personne, donc même si on faisait que ça, ça serait quand même réduit. Dieu laisse parler la joie et la peine, hein, et si nous n'osons pas les dire, si nous ne pouvons pas les dire, il les accueille. Lui qui sait ce qui n'est visible par aucun d'entre nous. Et par ces psaumes, je crois qu'il me fait toucher du doigt cette réalité, cette présence, et en les exprimant, les accueillant, je crois qu'il nous invite aussi à accueillir. Accueille les psaumes. Accueille ton frère. Accueille ta sœur. Comme Dieu t'accueille aussi, dans la colère, dans ta colère, ou dans ta joie. Comme Dieu t'accueille aussi ou veut t'accueillir dans ta désobéissance, ou dans ton obéissance. Accueille-le, permets-lui d'être ce qu'il est, comme Dieu te permet d'être ce qu'il est, et de lui dire. C'est peut-être juste la première étape, parce qu'après, évidemment, c'est peut-être autre chose à faire ou à dire, j'en sais rien, puis ça dépend de chacun aussi. Hein. Mais que le besoin d'être accueilli, en tout cas, que le besoin d'être accueilli avec bienveillance, puisse se trouver davantage matérialisé entre nous. Que le besoin d'être entendu, le besoin d'être écouté, trouve un petit peu d'espace pour être comblé. Que notre faim de bienveillance, elle m'habite en tout cas, je ne sais pas pour vous, je fais l'hypothèse que c'est le cas aussi, que notre faim de bienveillance à notre égard trouve de l'écho, un petit peu au moins, dans le regard, dans les gestes que nous pouvons poser les uns avec les autres. Que sa soif de bienveillance à lui, à elle, même si lui ou elle ne me dit rien, et que je ne vois qu'un visage, un visage que je ne sais pas décrypter, trouve de l'écho quand même dans mes gestes et mon regard. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, nous enseigne Jésus dans Matthieu 7. C'est un être humain qui est là juste à côté de toi, à côté de moi. C'est ce que nous sommes les uns aux autres. Et c'est ce que j'oublie parfois. J'avais été très frappé dans un exercice de communication non violente, c'était le dernier exercice des sessions de base. L'autre dit quelque chose, adresse-toi à lui comme si c'était un être humain à côté de toi. Comme si tu en avais. Ça m'avait... Mais c'est pas propre à la communication non violente. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car qui d'entre nous, ce matin, n'a pas faim et soif. Faim et soif de vie. Faim et soif de justice. Faim et soif d'affection. De soutien. De compassion. D'espérance. De justice, j'ai déjà dit, d'amour, de joie, de paix, de fidélité. Et je pourrais prolonger la liste de ce que l'apôtre Paul a présenté comme le fruit de l'esprit. Et ce mouvement que je vous propose, fruit de l'esprit, ça nous dit quelque chose de quelque chose qui nous aide à dire à vivre ça. Ces psaumes que nous avons lus, comme nos histoires, ils témoignent de la même aspiration, ils témoignent des mêmes aspirations, de la même quête. Et du point de vue du croyant que je suis, et la plupart d'entre vous aussi, mais je m'adresse comme si je m'adressais à des personnes extérieures à la fois, je m'adresse en pensant à ces personnes-là. Du point de vue du croyant que je suis, eh bien ces psaumes, je crois qu'ils nous disent aussi notre soif et notre besoin de Jésus-Christ. Qu'ils appellent Jésus-Christ. Qu'ils l'espèrent. Qu'ils l'invitent. Qu'ils sont tendus vers lui. J'ai sauté quelques psaumes tout à l'heure, je voudrais les reprendre. Et illustrer ce que je viens de proposer. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas, etc. Dit le psaume 1. Heureux lui fait écho la fin du psaume 2. Heureux sont les hommes et les femmes qui cherchent leur refuge dans le Fils, dans celui que le Nouveau Testament va appeler le Fils. Le psaume 1, le psaume 2 se font écho et appellent. Éternel, mes ennemis sont nombreux, écrit le psaume 3 au verset 1. De l'Éternel vient le salut, conclut le verset 9. Pour les psaumes comme pour nous, qu'ils en soient ou que nous en soyons conscients ou pas, c'est Jésus-Christ qui est au cœur et qui est au bout de leurs cris. Alors j'ai envie de dire pour moi, et j'espère que vous vous retrouverez un peu dans ces paroles, mais j'ai envie de dire, alors rapporte-moi à toi, Seigneur, que je contemple en toi l'amour, la foi, l'espérance qui sont le cœur de mon cri, le cœur de mes attentes, le cœur de mes aspirations. Aide-moi à voir en toi ton pardon, aide-moi à voir en toi ton amour. Ici, à côté des autres, chez moi, à côté des miens, de mes voisins, sur mon lieu de vie, sur mon lieu de travail, à côté des autres humains, aide-moi à mieux être un de ceux au travers de qui se donne à voir l'amour de Dieu, l'accueil de Dieu, le pardon de Dieu. Seigneur, viens nous apprendre à vivre ensemble, à être ensemble, à prier ensemble, à chanter, à pleurer ensemble, à t'aimer et à nous aimer les uns les autres.